Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
Dien Bien Phu, c'est la fin du mythe de l'invincibilité de l'armée française. Amis auditeurs, bonjour. Cette citation du général Christian de Castries, commandant des troupes françaises à Dien Bien Phu, illustre l'ampleur de la défaite française, qui a marqué un tournant décisif dans la guerre d'Indochine et a conduit à la fin de la présence coloniale française en Asie du Sud-Est. L'importance historique de cette bataille et son impact, tant du point de vue militaire que politique, marquent encore aujourd'hui les esprits. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. Pour décrypter cette bataille de Dien Bien Phu, j'accueille aujourd'hui sur mon plateau Frédéric Ponce. Bonjour Monsieur Ponce.
Bonjour Joseph.
Frédéric Ponce, vous êtes journaliste, écrivain, professeur et conférencier spécialisé dans les sujets liés à l'histoire militaire, notamment la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Vous êtes également connu pour vos travaux sur l'armée française et les conflits du XXe siècle. Frédéric Ponce, nous sommes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France essaye de se raccrocher à la fierté que constituent ses colonies d'outre-mer. De l'autre côté, une vague d'indépendance balaie l'Asie. Le dictateur Ho Chi Minh décide avec l'aide de la France de relancer les hostilités contre la présence française en Indochine qui venait d'être rétablie par le maréchal Leclerc. C'est le début de la guerre en 1946.
Oui, cette guerre qui commence, elle se passe très très loin de la France. Les Français, globalement, ignorent quasiment tout de l'Indochine, surtout qu'il y a eu la grande coupure entre 40 et 45. Et même les décideurs, les gouvernements, les hommes de politique en France regardent très loin de l'Indochine. Et ça tient aussi à l'histoire, parce que pour aller très très vite, cette colonie de l'Indochine ou ces possessions en Indochine ont été acquises au fil des années, en gros à partir du 19e siècle, de façon accidentelle. La colonisation, l'occupation s'est faite au fil de l'eau d'une certaine façon. Et donc, il n'y a jamais eu de vrai plan, ni de peuplement, bien sûr, à la différence de l'Algérie, ni de vrai plan stratégique concernant l'Indochine ou les différents territoires de l'Indochine. Au départ, on est entraîné dans cette affaire par à la fois l'Église et par les marchands. L'Église qui voulait aller protéger les missionnaires qui étaient martyrisés, violentés dans toutes ces régions. Et donc, il a fallu aller les protéger. On a envoyé des soldats, des fantassins de marine. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des richesses là-bas et surtout qu'il fallait contrer les Britanniques qui étaient en train d'étendre leur empire. Donc, on a ajouté au pot militaire, mais sans véritable plan précis. Et c'est à partir de Napoléon III et surtout à partir de la Troisième République, dans les années 1880, que la France va vraiment s'intéresser à l'Indochine, avec une mise en valeur, le caoutchouc, le riz, enfin, et tout ce qui pouvait rapporter à la métropole, mais c'était tout. À l'époque, en Indochine, en 1940, 45, 50, s'il y a 40 000 Français, c'est bien le maximum. Donc, c'est une colonie où il y a très peu de Français. On ne voit pas bien les intérêts, surtout qu'il y a eu l'occupation japonaise, il y a eu les bisbilles franco-françaises liées à l'occupation, à l'épuration. Et donc, on ne sait pas bien ce qui est en train de se passer là-bas en 1946, quand la guerre se déclenche. Et d'ailleurs, on envoie des personnalités éminentes, comme l'amiral d'Argentlieu et le général Leclerc, qui n'ont pas vraiment d'ordre à ce moment-là. Ils veulent revenir à la paix sur ce territoire. Ils sont prêts à discuter avec Ho Chi Minh et avec les indépendantistes, si on peut dire, mais ils ne sont pas vraiment suivis par les autorités de la 4e République. Et on va rater des occasions, gâcher beaucoup de temps là-bas, et on va perdre des milliers d'hommes pour pas grand-chose, finalement.
La guerre se déclenche, vous l'avez dit, et très vite, la situation se dégrade pour l'armée française. Le général de Lattre de Tassigny est envoyé pour redresser la situation. Il voit sa santé se dégrader et meurt en janvier 1952. Face à ce constat, l'état-major décide de lancer l'opération Castor.
Oui, alors il faut bien comprendre, l'opération Castor, c'est ce qui va nous conduire à occuper le site, le camp de Dien Bien Phu. Mais avant, si vous voulez, la France a subi des revers majeurs, notamment en 1950 sur la route coloniale numéro 4. Ça a été suivi par l'arrivée de Delattre, qui a rétabli un peu la situation, qui a gagné un certain nombre de batailles. C'était des succès tactiques, mais sans succès stratégique. Parce que petit à petit, on le voit bien aujourd'hui avec le recul, le Viet Minh, c'est-à-dire les gens d'Ho Chi Minh, n'ont pas cessé de progresser. Et il y a une date majeure qui permet de tout comprendre d'une certaine façon, c'est 1949, la victoire de Mao Tse-tung en Chine. Et à partir de 1949, le Viet Minh, qui n'était pas très puissant jusque-là, le Viet Minh va avoir des camps d'entraînement en Chine, du matériel à gogo, et va être organisé, entraîné, conseillé par les Chinois. Et là, c'est le début de la fin, si on peut dire, de l'Indochine française, parce que malgré quelques succès tactiques, l'armée française va se replier progressivement sur le delta du fleuve Rouge, c'est-à-dire sur Hanoï. On va abandonner des pans entiers du Nord-Vietnam. Et un succès militaire dans la cuvette de Nassan va permettre de casser beaucoup de l'effort militaire du Viet Minh. Et ça va être une terrible illusion parce que les militaires vont se dire ce qu'on a réussi à faire à Nassan, c'est dans l'ouest du pays, c'est-à-dire un petit camp retranché sur lequel vont venir se briser les vagues d'assaut Viet Minh, et ça va être une vraie victoire, eh bien on va pouvoir le répéter, le réitérer ailleurs. Et c'est à partir de là que commence la grande mystification de Dien Bien Phu. On croit qu'on va pouvoir à nouveau installer un camp retranché très loin d'Hanoï, très loin des bases aériennes, pour attirer le Viet Minh, pour qu'il vienne se casser là, de façon à pouvoir ensuite négocier, notamment à Genève où se déroulait une négociation sur l'avenir de l'Indochine, on pourra négocier en position de force. Ça a été un leurre puisque les Viet Minh ont été plus forts que nous.
On va aborder plus en profondeur ce point d'orgue de la guerre d'Indochine, la bataille de Dien Bien Phu. Frédéric Ponce, présentez-nous les lieux et la situation.
Alors Dien Bien Phu, c'est au nord-ouest du Vietnam, au nord-ouest d'Hanoï. C'est à l'époque, avec les avions qu'on avait, c'est à 2 heures de vol. Hein. Aujourd'hui, on fait ça en 45 minutes, même pas, 50 minutes. C'est une zone particulière dans ce secteur, cette région immense où il y a beaucoup de collines, très peu de paysages plats. Eh bien, c'est une... On a dit une cuvette. C'est une grande plaine, en fait, qui fait à peu près 17 km de long, 8, 10, 12 km de large. Et c'est un endroit où il y a une piste aérienne qui avait été construite d'abord par les Français, aménagée par les Japonais. Il y a des réserves de riz importantes. C'est un carrefour de route ou de piste à l'époque. Et c'est un endroit qui est jugé favorable pour installer un grand camp militaire qui est bordé par des collines de moyenne hauteur, de 400, 500 ou 600 mètres, sur lesquelles on installe des postes, des postes de surveillance et de défense, qu'on va baptiser de noms de femmes, hein, Isabelle, Claudine, Béatrice, et selon la tradition militaire. Et à partir de à la fois cette cuvette où se trouve la piste d'atterrissage et ces collines, ces sortes de mamelons tout autour, on estime qu'on est en sécurité. Le problème, c'est que très vite, les premiers observateurs vont dire « Attention, cette plaine, en réalité, c'est une cuvette ou c'est comme un casque. Les Français sont au fond et les Viet Minh, progressivement, et toutes les hauteurs. » Et tout repose sur une erreur terrible, cruelle d'appréciation. Nos artilleurs, la quasi-totalité de nos responsables militaires, étaient persuadés que jamais le Viet Minh ne pourrait amener ses canons au sommet des collines pour bombarder directement le camp. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé.
Les combats commencent le 13 mars 1964 et tout de suite, les soldats français sont pris de stupeur. La puissance de feu des Viet Minh est terrible. Y a-t-il eu des erreurs dans le renseignement, Frédéric Ponce ?
Oui, il y a eu des erreurs d'appréciation. Alors, je vous ai dit, le succès de la bataille de Nassan, un an et quelques avant, a en quelque sorte intoxiqué beaucoup de cerveaux. On a eu un excès de confiance sans doute dans la qualité des troupes. On avait des troupes d'élite à Dien Bien Phu, dans la qualité des aviateurs qui ont réalisé des prouesses jusqu'à la fin, jusqu'au 7 mai 1954, qui marque la défaite de Dien Bien Phu, on s'est illusionné. On avait mal évalué, ou plutôt on n'avait pas tiré les conséquences de ce qu'on savait, c'est-à-dire du renforcement significatif du corps de bataille Viet Minh. On savait tout ça, que les Chinois étaient derrière. Il y avait eu des interceptions, notamment de messages, de transmissions. On savait que les conseillers chinois étaient là. On savait que des tonnes et des tonnes de matériel arrivaient de Chine. Mais notre analyse s'est arrêtée d'une certaine façon en chemin parce qu'on n'avait pas imaginé la capacité, la résilience, l'énorme volonté de vaincre du Viet Minh qui, avec son armée, le corps de bataille Viet Minh, mais entouré par peut-être 150 000 ou 200 000 civils, a pu alimenter ce corps de bataille à la fois en vivres, mais aussi en munitions, en pièces détachées. Et des canons ont été amenés sur des bicyclettes, des canons démontés, mis sur des bicyclettes par des norias de fourmis qui ont apporté tout ça de la frontière de Chine vers les hauteurs de Dien Bien Phu. Tout a été remonté. Les canons ont été installés à flanc de collines, dans des abris cachés par la jungle. Et on n'a pas vu tout ça. Et là, quand on va sur place, on l'explique, on le voit et on comprend tout de suite. Vu d'avion, on ne voit qu'un moutonnement vert, les collines qui se succèdent, des grands arbres, et on ne voit absolument rien de ce qu'il y a dessus. Et donc nos aviateurs qui tournaient pour essayer de repérer à la fois les cheminements pour amener les armements et pour repérer les stocks, les dépôts d'armes et de munitions du Viet Minh, et surtout les grottes dans lesquelles ils planquaient leurs canons, rien de tout cela n'a été vu. On avait cru au départ qu'à partir du camp, on pourrait envoyer des patrouilles profondes dans la jungle pour détecter tout ça et apporter du renseignement. Mais très vite, à partir de... Ça commence même entre janvier et mars, mais à partir du mois de mars, on se rend compte que ça n'est plus possible. On ne peut plus sortir de ce camp retranché. Chaque sortie, c'est des dizaines d'hommes blessés ou tués. Et donc, on est coincé au fond de la cuvette.
On est suspendu à vos paroles, Frédéric Ponce. Mais on se retrouve tout de suite, amis auditeurs, juste après cette petite pause musicale.
Ils attendaient dans la cuvette le tout dernier assaut des Viet. Ils creusaient leurs trous. Dien Bien Phu. Depuis des mois, dans la bataille, sous un orage gris de ferraille. C'est qu'il tiendrait le coup. Dien Bien Phu. Le PC Gabriel est tombé ce matin. Isabelle, tiens ton corps. On se bat au corps à corps. Près du commandement, des gosses de 18 ans, pour la France, tombent en chantant.
Dien Bien Phu de Jean-Pax Meffray, et nous retrouvons Frédéric Ponce, conférencier, journaliste et spécialiste de la guerre d'Indochine. Frédéric Ponce, quelle est la stratégie des Viets? Très vite, les premiers affrontements sont très meurtriers.
Oui, alors les Viet ont eu deux stratégies. Une première, entre janvier et mars 1954, qui a créé des fortes tensions chez eux et qui a échoué. La première stratégie, c'était de se ruer sur les lignes françaises. C'est ce qu'ils ont essayé de faire entre janvier et mars. Ça n'a pas eu de résultat parce qu'en face, ils avaient nos soldats qui étaient vraiment des troupes d'élite. Et ils ont perdu des milliers d'hommes à ce moment-là. Et ça a produit, dans on le sait aujourd'hui, hein, dans l'état-major Viet Minh, de très fortes tensions, on pourrait dire des engueulades. Et Giap, qui était le général en chef aux côtés d'Ho Chi Minh, a repris la main à ce moment-là et a dit « on va changer de stratégie ». Il a même dit « c'est la décision la plus importante de ma carrière ». Parce qu'il s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça. Et sa nouvelle stratégie, ça a été d'encercler progressivement Dien Bien Phu, le camp, d'amener au plus près les canons qu'ils avaient pour matraquer de façon systématique, pour marteler le camp de Dien Bien Phu et en même temps creuser tout un réseau de tranchées pour progressivement asphyxier le camp. C'est ce qu'ils ont fait entre mars et mai 1954 et ils ont réussi. Et le choc est terrible, et il y a des témoignages dramatiques quand cette nouvelle stratégie se met en place à partir du 16 mars 1954, quand toutes les pièces des canons du Viet Minh se mettent à taper sur un premier poste, Béatrice, puis un deuxième, et ces postes sont littéralement écrasés sous les obus de ces canons. Le premier poste, Béatrice, c'est un poste où se trouvait des légionnaires, des gens, des grands soldats. En quelques minutes, ils sont tous anéantis. Tous. Et puis le lendemain, un deuxième poste tombe. Et là, c'est la stupeur dans le camp retranché. Et le colonel Pirotte, qui était le patron de l'artillerie du camp retranché, qui avait dit, ce grand soldat, il était amputé d'un bras, ce grand soldat qui avait fait des tas de guerres, qui avait dit aux colonels, aux généraux, « Je vous garantis que mes canons, il était le patron de l'artillerie, mes canons réduiront l'artillerie adverse dès qu'ils commenceront à tirer. » Or, le 16-17 mars, les canons de Pirotte ne peuvent rien parce que du camp retranché, on ne voit pas les canons Viet Minh. Les canons tirent, sortent des grottes à flanc de colline, tirent et rentrent dans les grottes. Et Pirotte, qui est un homme, c'est un destin magnifique et tragique, Pirotte dit « J'ai échoué, je me suis trompé. » Ce soir-là, il rentre dans son abri, il se met sur son lit picot, son lit de camp, une grenade sur le ventre, et il fait exploser la grenade, il se suicide. Et c'est un choc terrible, parce que pendant quelques jours, le commandement va dire, il ne faut pas dire au contingent, aux soldats de Dien Bien Phu, que le colonel Pirotte, qui était un dieu vivant, s'est suicidé parce qu'il a échoué. Et la nouvelle de sa mort va rester secrète. Seul l'aumônier saura, parce qu'il avait procédé à la bénédiction du corps, etc. Seul l'aumônier saura, mais le reste du camp l'ignora, parce qu'il ne fallait pas briser le moral. Et là, le coup est terrible, mais le camp va encore se battre avec acharnement entre cette mi-mars jusqu'au 7 mai 54.
Dien Bien Phu est un véritable enfer. On l'a appelé le Verdun de l'Indochine. Décrivez-nous l'ambiance, Frédéric Ponce.
Très vite, avec le matraquage des obus Viet, Dien Bien Phu va se transformer en gigantesque terrain de bouts de bois fracassés, de cadavres qu'on ne peut plus ramasser, de barbelés éclatés dans tous les sens. À la fin, on n'enterre plus les morts. Les témoins racontent qu'il y a des débris de corps un peu partout. La rivière Nam Yun, c'est la petite rivière qui traversait le camp, charrie des corps, des cadavres, du sang. Les médecins militaires qui opèrent dans des abris de fortune ont parfois de la boue jusqu'aux genoux. Les parois de terre sont couvertes de moisissures, d'algues qui poussent et ils continuent à opérer. Ils vont continuer à opérer jusqu'au 6 mai soir, à ce moment-là, dans des conditions épouvantables. Ils opèrent du matin au soir. De temps en temps, ils s'effondrent de fatigue. Ils dorment une heure et demie, et ils se remettent au travail. C'est la belle figure du médecin commandant Grovin, du lieutenant, j'oublie son nom à l'instant, Gindret, du lieutenant Gindret. Tout ça a été raconté. C'est une épopée plus que militaire, une épopée humaine extraordinaire. Parce que tous ces gens, les soldats en première ligne, les médecins qui travaillent, l'état-major, vont vivre 56 jours 57 jours et 56 nuits d'enfer en continuant à assurer leur mission et leur travail. Au service de la France pour certains, mais au service des copains, au service de ceux avec qui ils étaient arrivés dans cette cuvette tragique.
Au cœur de cet enfer naît un héros, ou plutôt une héroïne, Frédéric Ponce. Geneviève de Galard résonne comme le nom de Dien Bien Phu. Qui est-elle ?
Geneviève de Galard est une jeune fille de bonne famille qui s'était engagée pour être infirmière secouriste de l'air. Elle était convoyeuse de l'air, elle était dans les avions, et quand on évacuait des blessés, elle était là pour s'occuper des blessés dans les avions. Et il y en avait comme ça une vingtaine, 20 ou 25 à Hanoï. Et fin mars, la piste d'aviation où elle venait chercher les blessés en avion venant d'Hanoï est matraquée. Son avion ne peut pas redémarrer, son avion est cassé et elle reste sur place. Elle pense que le lendemain, un autre avion va venir et elle va pouvoir partir. En réalité, à partir de ce moment-là, elle va rester à Dien Bien Phu. Elle va être la seule femme, finalement, de Dien Bien Phu. Elle était arrivée avec des petits mocassins, un uniforme très joli d'hôtesse de l'air, si vous voulez. Et donc, il va falloir l'habiller. Des hommes vont lui fabriquer dans des toiles de parachute avec des treillis retaillés, parce que c'était des treillis d'hommes, vont lui fabriquer une tenue. Et jusqu'au bout, elle va servir aux côtés du médecin Grosvin. Elle va servir les malades, elle avait une compétence d'infirmière, c'est elle qui donnera à manger, qui soignera, qui accompagnera les agonisants dans leurs dernières minutes, et elle va devenir le sourire de Dien Bien Phu, l'ange de Dien Bien Phu. C'est comme ça que tous l'ont décrit, parce qu'elle arrivait dans un abri où des gens étaient en train d'agoniser, et les gars, les hommes se redressaient, se tournaient vers elle, elle leur souriait, et beaucoup ont dit: on savait qu'on pouvait partir avec ce sourire. Beaucoup ont survécu, quelques-uns sont morts après dans les camps, mais tous ceux qui ont pu témoigner ont pu dire: ce sourire de Geneviève de Galard, la Miss, comme on l'appelait, Mademoiselle Geneviève, l'ange, eh bien, ça les a aidés à tenir. C'était un visage féminin. Les médecins ont dit, on savait qu'un sourire féminin, des gestes, un visage féminin pouvait apaiser. Là, on l'a vécu dans l'enfer, dans cette tragédie, jusqu'au bout. Geneviève n'a pas épargné son temps, ni les risques, parce qu'elle s'est trouvée souvent sous les bombes. Elle est restée jusqu'au bout, jusqu'à la libération. Elle n'a pas voulu, elle, être libérée tant que les derniers soldats n'étaient pas libérés.
Après des semaines de combat, la position n'est plus tenable. Comment s'est passé l'assaut final ?
L'assaut final, c'est progressivement, le camp est complètement encerclé. Il n'y a plus qu'un noyau central. Les dernières positions, il y en a une ou deux qui tenaient sur ces fameuses collines, sont investies. Les Viet font sauter des tonnes de dynamite pour ensevelir les derniers défenseurs. Et le 6 mai au soir, le général de Castres, qui était passé de colonel à général, dit: demain à 17h, ordre de cesser le feu. Vous arrêtez le combat, pas de drapeau blanc, vous ne hissez pas les bras, vous ne montez pas les bras, et les Viet seront là. Et tous les témoins ont raconté que à partir de 17h, le 7 mai, quand le combat s'arrête, plus un bruit. Le silence extraordinaire, c'est le silence d'un cimetière. Je vous rappelle, c'était un univers de boue, de bois fracassé et de corps abandonnés. Les gens dans leurs abris sortent progressivement, regardent et voient arriver des nuées de combattants Viet Minh avec leurs drapeaux qui vont se rendre vers le PC, le poste central, vont capturer les officiers et vont organiser les longues colonnes de prisonniers qui vont, après des jours et des jours de marche, rejoindre les camps de prisonniers qui ont été des camps de la mort, avec une mortalité qui a été au-delà de celle des camps nazis, 70% de morts parmi nos prisonniers de Dien Bien Phu.
Frédéric Ponce, pourquoi est-ce que la bataille de Dien Bien Phu est entrée dans l'histoire de France comme un mythe ?
Parce que c'est la dernière grande bataille meurtrière de l'armée française, après, si vous voulez, les combats de 1944. Il n'y a pas eu en Algérie de bataille équivalente. Sur cette durée, avec autant de morts, autant de sacrifices, autant de prisonniers, autant de décédés dans les camps du Viet Minh. Il y a un héroïsme extraordinaire jusqu'au bout de ceux qui ont combattu et de ceux qui étaient à Hanoï, à qui à la fin on demandait: est-ce que vous voulez rejoindre les camarades en renfort à Dien Bien Phu? Et des gens qui sortaient des bureaux, qui n'avaient jamais sauté en parachute, ont été largués de nuit dans la fournaise pour être aux côtés des copains. Et c'est une saga qui a marqué l'ensemble de l'armée française depuis 1954.
Un immense merci, Frédéric Ponce, de nous avoir fait revivre l'ambiance de la bataille de Dien Bien Phu. Amis auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême. Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie. Je vous souhaite une excellente semaine. Que la paix soit avec vous.